Bonjour à tous, je m'appelle Alexis et vous écoutez l'épisode 17 du podcast de Contournement. Alors dans cet épisode, je discute avec William Fauchou, un no-codeur super intéressant, rencontré grâce à la magie des internets, et surtout grâce à une application qu'il a créée avec Bubble, donc la builder que vous connaissez tous. Alors il s'agit d'une application en lien avec la pandémie de Covid-19, mais pas d'un truc super sérieux de suivi de symptômes ou de soutien aux commerçants comme on a beaucoup vu grâce au no-code, et qui sont super, hein, mais il n'y a pas que ça non plus à faire dans cette période compliquée. Non, William, lui, il a décidé avec des amis de proposer une solution pour lutter contre la solitude et le manque d'ambiance festive que l'on ressent tous après toutes ces semaines de confinement. Alors il va vous raconter tout ça, et puis bien d'autres choses, parce que William, il est aussi le CEO d'une startup spécialisée dans la blockchain. Et comme vous allez le voir, il a pas mal de recul sur le no-code, et un point de vue très intéressant sur plein de sujets que l'on aborde régulièrement dans ce podcast. Donc c'était intéressant de discuter avec lui de tout ça. Allez, j'envoie la discussion. Bonjour William, et bienvenue dans le podcast de Contournement. Alors nous, on s'est rencontrés virtuellement il y a quelques jours par la magie des internets parce que tu as créé une application Bubble qui est en lien avec la situation actuelle de confinement qu'on est tous en train de vivre. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un truc super sérieux, de suivi de symptômes ou de soutien aux commerçants, un peu comme on a vu beaucoup là, grâce au no-code. Non, toi et quelques amis, vous avez décidé de lutter contre un autre fléau qui est celui de la solitude et puis du manque d'ambiance festive. Je pense qu'on ressent tous après 3 semaines de confinement. Et donc, vous avez créé Corona Party. Tu vas nous raconter tout ça dans un instant. Mais d'abord, 2 questions. Comment est-ce que tu vas et est-ce que tu peux te présenter?
Salut Alex, je vais très bien. Merci. Alors, moi, je suis à la base un juriste. J'ai fait des études de droit. Et à l'occasion de mes études de droit, j'ai créé une start-up qui s'appelle Blockchain Your IP, qui est une legal tech en fait spécialisée dans la protection des créations et d'innovation de la propriété intellectuelle par le protocole Bitcoin. C'est-à-dire que très simplement, on offre un outil de timestamping à des entreprises dans le luxe et dans tout secteur pour protéger leurs nouvelles collections, leurs nouveaux sacs, leurs nouveaux dessins de montres, de bijoux contre la copie et la contrefaçon.
Et donc, tu me disais un petit peu en préambule que dans ce cadre-là aussi, tu utilises du no-code pour proposer des services justement par rapport à au service que vous proposez dans ta boîte, quoi.
Alors, on n'a pas une application qui est réalisée en no-code. Pour le coup, c'est du vrai code. Mais c'est vrai que pour tester des nouveaux concepts et puis pouvoir être rapide sur certaines features qui ne sont pas critiques, eh bien, on peut tout à fait utiliser du no-code et en particulier Bubble qui permet facilement créer des API ou Integromat qui va nous permettre de traiter des grands volumes de données et par exemple de faire des reporting sur la data.
Ok, bon, on va revenir tout ça après parce que ce dont je voudrais qu'on parle en premier c'est Corona Party que tu as créé et qu'on a testé d'ailleurs hier soir avec la communauté no-code dont tu étais là aussi, c'était chouette. Il y avait pas mal de gens de la communauté de Contournement qui est venu, on a discuté, on a utilisé votre application. Et bah écoute, raconte-nous, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment ça vous est venu, un petit peu la backstory et puis on va parler un petit peu aussi de la technique parce que ça nous intéresse.
Mais Corona Party, à la base, c'est une idée qu'on a eue entre amis. On était embêtés de ne plus pouvoir réellement se voir et plus organiser des petites fêtes le vendredi ou le samedi. Et si tu veux, le souci des apéros visio ou des Skype apéros comme tout le monde en fait en ce moment, eh bien, c'est que rapidement, au-delà d'un certain nombre, tu as un effet cacophonie. C'est-à-dire que tu ne t'entends plus et si tu vas avoir des discussions plus ou moins profonde et apprendre à connaître les gens comme tu le fais dans ce genre de contexte, et ben c'est pas possible si vous êtes 15 sur la même visio. Donc on s'est dit, qu'est-ce que les gens aiment dans une soirée? Ben c'est le fait de pouvoir rencontrer des gens, le fait de pouvoir avoir des discussions isolées peut-être dans certaines pièces, d'organiser une contre-soirée dans la cuisine. Et donc on va reproduire ce concept dans une application sous forme de map. Une map sur laquelle tu as plusieurs pièces avec plusieurs visios à chaque fois et dans laquelle tu peux te balader de pièce en pièce et retrouver tes amis. Alors, je suis pas tout seul sur ce projet parce qu'on est une petite équipe. Il y a Gaëtan qui a fait des super graphismes que tu as vus. Il y a Arthur qui s'occupe un petit peu de la com et qui est YouTuber. Il y a aussi Romain qui nous a fait un site WordPress. J'ai un ami ingénieur aussi, Guillaume. Et puis un ami spécialisé en SEO, Clément. Donc, on est vraiment c'est l'occasion de créer vraiment une belle équipe pour lancer ce projet éphémère et de se faire plaisir surtout.
Ouais, non, je trouve que c'est un concept assez sympa. Alors, c'est pas facile forcément pour toujours à l'audio de se représenter. C'est quoi l'adresse?
C'est coronaparty.io.
Voilà, donc quand on arrive sur le site, on nous demande de nous présenter, de mettre son prénom, et puis on se retrouve face à la carte de la maison, quoi. Et donc, on a les différentes pièces, et à chaque fois qu'on va dans une pièce, ça déclenche une visio. Donc, on se retrouve dans une salle, dans une room, comme on a tous l'habitude de faire en ce moment, de visio. Et donc, on a potentiellement les caméras, enfin des gens qui seraient aussi dans la salle, quoi.
Exactement. Tu crées ta maison, tu invites tes invités, et derrière, tu peux les retrouver dans les différentes pièces. On a un record aujourd'hui qui a 65 personnes en simultané dans une maison. Et une fête qui a duré plus de 9 heures. Donc, il y a des gens qui l'utilisent vraiment à son plein potentiel.
Ce qu'il faut préciser, c'est que juste chacun peut avoir sa maison. C'est-à-dire que nous, hier soir, par exemple, on a fait un petit apéro contournement no code. Donc, ça, c'était dans notre maison. Mais il y avait en parallèle sûrement des gens dans d'autres maisons qui étaient en train de faire des apéros ou alors faire des fêtes débridées.
Tout à fait. Et ce qui est génial dans ce projet, tu vois, c'est que déjà, c'est un projet pour la bonne cause. Et puis surtout, c'est un projet qui est super intéressant pour moi et mes potes parce que on travaille tous plus ou moins dans le B2B. Et donc, on n'a pas l'habitude de pouvoir toucher à ce qui est fun. Ce qui est fun, c'est le B2C, tu as beaucoup d'utilisateurs. Et là, Corona Party, on a fait 50 000 pages vues en 10 jours. On a même pu tenter... des petites pubs Facebook sur nos propres sous pour voir comment ça réagissait face à des audiences si larges, tu vois. Donc c'était vraiment l'occasion aussi de tester des choses qu'on n'a pas l'occasion de faire d'habitude du fait de la viralité de la solution et du fait qu'elle parle à tout le monde.
Ouais, je rebondis un peu sur ce que tu dis parce que c'est vrai que je me rends compte que c'est vraiment typiquement un side project, quoi. Nous on aime beaucoup les side projects et c'est vrai que beaucoup de gens travaillent dans des produits B2B un peu sérieux, forcément, enfin, comme tu dis, et que leurs side projects sont souvent plutôt des choses un peu plus fun, ou un peu plus orientées vers les clients, enfin, donc B2C. Et ça, c'est un constat que je m'étais jamais vraiment fait, mais que je trouve intéressant. Tu illustres bien ça, quoi, ton projet.
Bah oui, mais je pense que parce que les paillettes, le fun, c'est dans les projets B2C. Les projets B2B, ça fait rêver ça fait pas rêver grand monde, quoi. Donc c'est si probablement pour ça.
Et le no-code s'y prête bien, quoi.
Le no-code s'y prête très bien parce que tu vois, on aurait voulu faire ça en code. Bon, l'application n'était pas extrêmement compliquée non plus, mais là en no-code, on a pu avoir une première version en une journée, quoi.
Raconte-nous du coup un petit peu comment ça s'est passé, les étapes et puis même le côté un peu technique. N'hésite pas aussi à rentrer un petit peu dans la technique de Bubble, notamment ça pourra intéresser certaines personnes. Fais attention parce qu'il y a un peu de bruit des fois, quand je sais pas ce que tu fais, mais
je crois qu'on s'y est mis à le premier week-end du confinement en fait, et du coup on s'est dit il faut absolument qu'on arrive à sortir l'application le plus rapidement possible parce qu'il y a d'autres gens qui vont faire la même chose. Bon, en fait c'était pas le cas, mais on voulait vraiment la sortir super rapidement, donc on a fait le choix de la faire avec Bubble. Donc très concrètement, en fait, j'ai commencé par faire une maison pour moi et mes amis, qui était juste une maison et donc il n'y avait pas la possibilité de créer sa propre maison. Donc la manière dont on a fait ça, c'est qu'on a juste fait différentes pages sur Bubble, et sur chaque page on avait mis un iframe avec Whereby à l'intérieur.
Et vraiment votre prototype, quoi.
Ouais, c'est le prototype. On a fait une soirée pilote et on s'est rendu compte que ça faisait quand même bien marrer les gens, et qu'ils avaient aimé l'expérience, quoi. Donc c'est là qu'on s'est dit, finalement, il faut peut-être le porter pour tout le monde. Et donc là, c'était un petit peu plus compliqué, mais on a créé la possibilité de créer des différentes soirées. Et surtout, il nous fallait une solution pour la vidéo, parce qu'il faut, si on crée plusieurs maisons à chaque fois, avoir potentiellement 5 vidéos, conversations vidéo séparées par maison. Et là, aujourd'hui, on a dépassé les 3000 maisons, donc ça fait beaucoup de conversations vidéo. Et le problème, c'est que Whereby...
15 000, quoi, potentiellement. 15 000 salles de vidéos, quoi.
Tout à fait. Et le problème, c'est que Whereby, par exemple, ne permettait pas de faire ça. Il y avait un abonnement API qui était à 500 €. Nous, c'est un projet non lucratif, sans aucune collecte de données. On ne pouvait pas prendre l'abonnement. Donc, j'aurais demandé de nous sponsoriser. C'est pas quelque chose qu'ils font. Et puis, on est tombé sur Jitsi. Jitsi, qui est une solution totalement open source et qui permet de créer, en fait, si tu veux, des salles de conférences, de vidéos à la volée, juste en changeant l'URL de la page. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux créer jitsi.org/ma-super-soirée et ça va te créer une room si elle n'existe pas encore, etc. Et donc là, on s'est dit, finalement, c'est un iframe, il charge sur la page, il suffit qu'on passe dans les paramètres de l'iframe l'unique ID de la soirée qui est dans l'URL et ça va générer une nouvelle room à chaque fois. Et si elle existe déjà, les gens vont pouvoir la rejoindre. Donc, c'est comme ça qu'on a fait la version 2.
Ouais, non, c'est assez malin. Et pour revenir sur Jitsi, c'est vrai que c'est un outil, je trouve, qui est assez méconnu et que moi, je trouve extraordinaire, d'autant, comme tu disais, qu'il est open source. Nous, on l'utilise depuis des années, là, on voit tout, je bossais avant, et notamment pour cette simplicité d'utilisation qui est que tu prends le lien de base, tu rajoutes ce que tu veux derrière et t'as tout de suite, tu te retrouves dans une salle. Donc, en fait, tu as juste un lien à envoyer aux gens. Pas besoin de créer la salle en amont ni rien. Et c'est vraiment super, il y a plein de fonctionnalités, tu peux enregistrer la vidéo de ce qui se passe. Et en fait, c'est assez malin parce que c'est décentralisé, c'est-à-dire que quand tu enregistres la vidéo, par exemple, ça va s'enregistrer dans ton Dropbox. Si tu veux diffuser ce que tu es en train de faire en live, ça va reposer sur YouTube. Donc eux-mêmes ne fournissent que la mise en relation de la vidéo et les autres outils périphériques, on va dire, sont fournis par des services tiers. Donc c'est assez, assez malin, quoi. Et il y a aussi la possibilité, alors ça c'est, on sort un peu du cadre du no-code, mais je le dis quand même parce que j'aime bien cette idée, c'est que comme c'est un outil open source, on peut aussi l'héberger soi-même. On peut prendre un serveur, l'héberger et faire sa propre passerelle vidéo avec Jitsi, quoi. Donc ça c'est assez chouette.
Le second point, moi aussi, qui m'intéresse dans Jitsi, c'est qu'il est open source et puis surtout, il me semble que la conversation vidéo est chiffrée de bout en bout. Il y a de plus en plus de débats en ce moment. Surtout les systèmes de visio qui sont utilisés justement pendant le confinement et qui sont pas forcément respectueux de la vie privée des gens. Et nous, on trouvait du coup qu'utiliser un outil open source chiffré, ça collait quand même vachement bien avec l'image d'un projet éphémère sans aucun but lucratif. Et donc, c'est pour ça que c'était un bon mariage entre Jitsi et Corona Party.
Là, c'est important de le préciser, d'autant que là, on entend en ce moment, il y a un peu un espèce de mini bad buzz, c'est pas vraiment un bad buzz, mais autour de Zoom, par exemple, qui aurait quelques failles de sécurité. Je sais pas si c'est pire que les autres en réalité, mais enfin, et voilà, ils se prennent un peu des tacles, comme ils sont l'outil le plus utilisé actuellement. Mais c'est vrai, c'est bien de le préciser, ça c'est une des forces de l'open source, hein, on le répétera jamais assez, mais le seul moyen de quand même d'avoir de la sécurité, d'avoir de la qualité, c'est de laisser d'avoir une communauté autour qui va aller lire le code, qui va aller le vérifier, le valider, quoi. Et ça, c'est assez sous-estimé. Bon, on s'écarte un peu du no-code, mais ça, c'est des sujets, moi, qui me tiennent assez à cœur. Malheureusement, j'ai pas souvent l'occasion d'aborder, parce que c'est vrai que dans le no-code, malheureusement, on est beaucoup sur des outils en SaaS, beaucoup des outils américains, il y a très peu d'open source. On est un peu... pour l'instant, on est un peu dépendant de tout ça, quoi. Un petit peu tributaire de toutes ces choses-là.
Ouais. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de combiner... combiner les deux aussi, de combiner code et no code. Par exemple, hier, on discutait sur le cours d'apéro sur une personne qui avait fait sa propre API, mais qui ensuite était passée par Bubble pour faire le front.
Ouais.
Et ça aussi, c'est très smart, il me semble, parce que c'est vrai qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire en no-code, mais pour faire un front, ça me semble tout à fait adapté quand tu vois à quel point c'est rapide de faire des modifications, d'ajouter des onglets par rapport à une application Angular ou React.
Ouais, non, mais ça, je pense qu'on le, nous, on le répète inlassablement avec Erwan, c'est vraiment no-code, ça ne veut pas dire plus de codeurs. Et au contraire, à notre avis, ça veut dire vraiment une meilleure collaboration entre les porteurs de projets, les gens qui ne sont pas techniques mais qui ont des idées, et les développeurs. Et il y a plein de choses que les porteurs de projets peuvent tester, prototyper, et les développeurs peuvent se concentrer sur ce qui a de la valeur. Comme tu dis, par exemple, pour moi, faire intégrer du front, des choses comme ça, ça a peu de valeur, parce qu'aujourd'hui, ça se fait très facilement avec Bubble, avec Webflow, etc. Par contre, développer une API, développer, faire de l'algorithmie, faire des choses plus évoluées, des blockchains comme tu vous faites, enfin là ça a de la valeur et je pense que les développeurs doivent se concentrer là-dessus parce que c'est aussi ce qui est le plus intéressant, hein, très franchement. Enfin moi je suis développeur à la base et je pense que c'est là où les gens peuvent aussi s'éclater professionnellement, quoi. Donc je trouve qu'il y a un mariage vraiment entre le code et le no-code qui est génial, quoi.
Ouais, c'est sûr. Ben moi c'est pour ça à la base que d'ailleurs je me suis intéressé au no-code, c'est que, comme tu sais, j'ai une entreprise qui s'appelle Blockchain Your IP, et en ce moment, alors peut-être pas en ce moment même, mais il y a quelques mois encore, le marché du dev était extrêmement tendu. C'est-à-dire que c'est très difficile de trouver un stagiaire en dev, de trouver un alternant en dev, même de trouver un dev. Il y a de plus en plus de devs qui ne veulent même pas finalement de CDI et qui veulent travailler en freelance. Parce que il y a beaucoup trop de demandes par rapport au nombre de personnes disponibles, quoi. Et donc ça fait grimper les prix de manière exponentielle. Et à mon avis, le marché du dev en ce moment est un peu dans une bulle et déconnecté de la réalité. Quand tu regardes par exemple les stagiaires des écoles de dev qui vont être payés plus qu'un SMIC, alors qu'un étudiant en école d'avocat, tu vois, il va gagner moins, ça paraît un petit peu bizarre. Et donc le souci, c'est que non seulement c'est cher, mais en plus c'est extrêmement compliqué et long. Et moi, je voulais trouver une solution qui me permette d'être suffisamment réactif. Qu'un client me dise, est-ce que c'est possible, par exemple, d'ajouter un petit tableau de statistiques sur l'application, et que je puisse dire oui, ce sera bon dans 3 jours ou dans 1 semaine, quoi, tu vois. Ne pas avoir à devoir faire des pouvoir demander aux devs de Blockchain Your IP finalement de s'occuper des core fonctionnalités et ne pas avoir à les faire détourner de leur chemin finalement pour faire cette petite fonctionnalité à côté qui est pas centrale et prendre du retard sur la roadmap. Ouais, et moi je trouve que le no code il peut complètement s'imbriquer là-dedans. Et la manière dont je m'en sers, moi, dans mon métier, c'est pour fabriquer des sortes de microservices. Des sortes de microservices qui incluent pas de notion de confidentialité et qu'on va pouvoir plugger directement à l'API. Et ça permet d'être beaucoup plus rapide et d'innover. On est tout le temps en train d'essayer de réfléchir aux nouvelles manières de protéger des créations, que ce soit en ligne ou dans des formats originaux. Et ça, c'est un peu grâce au no-code. Et ensuite, si ça marche, effectivement, et qu'on a besoin de quelque chose sur lequel on a la main, parce qu'il y a aussi ce problème, comme tu l'as dit, du fait que le code, beaucoup de plateformes sont américaines. Si on a besoin de quelque chose sur lequel on a la main, éventuellement, on le recodera pour le mettre sur nos serveurs. Mais, mais c'est intéressant pour prototyper au-delà, quoi. Et commencer à tester.
Ouais, non, il y a plein de, enfin, tu soulèves plein de points sur lesquels j'ai envie de rebondir. Bon, je vais pas trop m'étendre sur ce que tu disais sur le marché des devs. Je trouve que c'était très intéressant. On connaît très bien cette problématique puisqu'on vient d'un centre de formation avec Erwan, que Erwan a cofondé. On a formé des développeurs juniors. Donc, on connaît bien aussi les dérives qu'il y a et vraiment ce marché un peu inondé de développeurs juniors peu ou pas qualifiés. Enfin, qui sont des fois très bons, mais qui sont quand même en 9 semaines ou même 3 mois de code, c'est quand même difficile de devenir très bon. Et c'est vrai que moi, j'ai peur quand même pour tous ces jeunes développeurs que le no-code quand même aspire aussi une partie de ces métiers-là. Et quand je dis j'ai peur, je pense que c'est un peu la logique, parce que je pense que le no-code remplace vraiment aisément aussi le développement peu qualifié, quoi. Donc, bon, enfin, je ne vais pas forcément trop m'étendre là-dessus, mais après, on parlera. J'aimerais bien revenir que tu nous donnes des exemples concrets de ce que tu fais, mais si jamais tu veux réagir par rapport à ce que j'ai dit.
Ouais, je pense que, en fait, c'est sur les personnes qui vont faire du no-code. Moi, je pense que ces gens-là et même certains développeurs ont tout à fait leur place aussi pour faire du no-code, parce qu'il ne faut pas oublier que Bubble, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils font. C'est un framework visuel. Mais donc c'est comme de coder en plus simple, et je pense même qu'une personne qui sait coder en fait a de la valeur ajoutée à faire du no-code, parce qu'une personne qui sait coder, elle aura déjà les bons réflexes en manière de structuration de data, les bons réflexes en manière de privacy et de réglage des règles de privacy. Ça va lui parler ces applications one page, tu vois. Une personne qui a jamais fait de code, jamais fait de site vente presse de sa vie, c'est pas possible qu'elle arrive, qu'elle commence à faire du no-code et qu'elle ait directement, à mon avis, la bonne méthode, quoi.
Je suis très très d'accord. En fait, je le dirais même, pour moi, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, je pense que tous les développeurs juniors, justement, alors actuellement, comme tu dis, de toute façon, ils n'ont pas trop de problèmes à trouver du travail, etc. C'est une bulle, et je pense que c'est possible que cette bulle explose là du fait de la situation actuelle et de la crise qui va s'en suivre. Mais bon, ça, on le verra, je suis pas économiste. Mais dans tous les cas, à mon avis, ces développeurs juniors, ils auraient beaucoup à gagner, comme tu dis aussi, à se mettre sur des outils no-code, et notamment Bubble, qui est quand même l'outil le plus avancé. Je dirais Bubble et Webflow, et qui peut leur permettre de compléter leurs skills, parce que quand on est développeur junior, quand même, ça va pas être évident de refaire Twitter, par exemple. Alors qu'avec Bubble, littéralement, on peut faire Twitter en quelques jours. Et à mon avis, un développeur junior qui se met à Bubble, il peut en tirer le meilleur parti, quoi. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Nous, on dit aussi un peu le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire que commencer sur du no-code et apprendre à programmer avec Bubble ou Webflow peut aussi derrière te permettre de devenir un bon développeur, quoi. Ça, c'est une autre démarche, quoi. Mais ce que tu dis, je trouve, est très intéressant, hein.
C'est clair, on retrouve tout, on retrouve même quand tu commites sur GitLab, c'est-à-dire quand tu fais un versionning de ton application, ça, il y a une feature dans Bubble. Bon, si tu le sais pas, tu t'en rends pas compte, mais si t'es développeur, tu comprends tout de suite pourquoi ça a été fait, quoi. Et puis, à mon avis aussi, on a quand même besoin de gens qui s'y connaissent un petit peu en tech et qui ont une expérience peut-être dans les vraies applications, parce que si toute une partie organisation des développements. Le problème de Bubble et de tous ces outils de code, je pense, c'est que c'est tellement facile que tu as envie de commencer directement à la main levée presque, sans te poser de questions, sans faire de cahier des charges, sans faire des pics, sans réfléchir à ce que tu vas faire en amont. Et ensuite, tu finis avec une application pas du tout responsive, comme Corona Party typiquement, qui a été fabriqué dans l'urgence. Et moi, à mon avis, si tu veux bien faire du no-code, c'est aussi important d'apprendre la méthodologie de dev. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des user stories, des épiques, il faut les découper en tickets, il faut les mettre sur GitLab, il faut penser à faire ces tests, il faut avoir des conventions de nommage pour la manière dont on va nommer, par exemple, ces variables. Alors ça, c'est pas vrai sur Bubble, mais ce sera le cas typiquement sur Integromat, où ça peut rapidement partir en sucette si tu nommes tous les data stores et les scénarios un petit peu n'importe comment. Et donc, c'est super important de s'imposer, à mon avis, cette rigueur, si tu veux que ça fonctionne sur le long terme.
Ouais, vas-y, je te laisse finir.
Un deuxième gros risque, à mon avis, sur lequel il faut faire attention, c'est la sécurisation des données, et je pense notamment aux interfaces de production. Quand tu travailles sur une application web classique, il n'y a qu'une ou deux personnes qui ont accès, dans une startup, à la prod, et ils y ont un accès via SSH. C'est-à-dire qu'en fait, c'est leur PC qui a directement un accès au serveur de prod, mais personne peut se connecter, par exemple en ligne ou depuis un autre ordinateur, au serveur de prod. Et ça évite de faire des bêtises. Quand, par exemple, tu bosses avec des applications qui ont leur back-end sur un tableur Excel, sur Airtable, et que du coup, tes tokens Google Analytics ou même tous tes tokens, en fait, ils sont dispersés à plein d'endroits et que la gestion d'accès se fait via Google Drive, et ben ça peut rapidement augmenter la surface d'attaque ou la surface d'erreur de manière intersidérale, quoi, parce qu'il suffit que quelqu'un supprime le dossier sans faire gaffe et ton application elle est down, alors que ce serait jamais arrivé autrement. Donc à mon avis, il y a aussi à prendre de la rigueur du dev pour essayer de la mettre dans la rigueur du no-code et pas faire n'importe quoi.
Ouais, non, là t'abordes plusieurs sujets vraiment qui me passionnent, et je trouve que c'est intéressant parce que là t'abordes une vision technique du no-code qui, je pense, échappe en fait pas mal aux gens, et c'est normal parce que, comme tu dis, ils n'ont pas un background technique à la base, c'est forcément les gens qui se mettent au no-code. Enfin, il y a tout, et c'est pour ça qu'il y a à gagner aussi à ce que des développeurs se mettent au no-code pour apporter cela dans cet écosystème. C'est un peu mon cas, et là, je trouve que les points que tu soulèves, j'en parle rarement dans l'écosystème no-code parce que les gens n'ont pas forcément conscience. Et il y a trois choses sur lesquelles je voulais revenir. Il y a une première chose qui n'est pas technique, mais ça, on le répète aussi régulièrement, vraiment de ne pas se jeter dans les projets et croire que parce que, par exemple, on maîtrise Bubble, on peut commencer à designer et à réaliser son projet sans préparation. Alors ça, c'est pas un point technique, mais ça, c'est un point juste d'organisation. Et l'organisation des projets web, par exemple, un peu avec les méthodes agiles, comme tu disais, avec les user stories, etc., à mon avis, a toute sa place, plus que jamais, dans le no-code. Il faut pas l'oublier, il faut pas croire que parce qu'on fait pas de code, on peut se jeter dans le design d'une base de données sur Airtable. Enfin, voilà, de commencer à faire ces interfaces dans Webflow. Non, ça, c'est pas possible. Et Noam, par exemple, le soulignait très bien dans notre épisode sur Airtable, quoi. Toujours commencer papier-crayon, ça, c'est le bon point de départ. Et après, de toute façon, on va aller vite sur l'implémentation. C'est ça l'avantage du no-code. Ouais. Quand tu parlais pour revenir sur le point technique qui me plaît beaucoup, Bubble, c'est vrai que c'est le seul outil avec Webflow, mais sur un autre volet. Mais Bubble, c'est le seul outil qui propose, en fait, je trouve, une abstraction visuelle de toutes les tâches et de toutes les facettes, en fait, du métier de développeur. Et t'en souligner un, que, à mon avis, personne dans la communauté no-code ne se rend compte, par exemple, c'est le fait de pouvoir versionner ces modifications. Ça, ouais. C'est quelque chose de très important en n'importe quel développeur. Je me souviens, à Simplon, dans la première semaine, t'apprenais à utiliser Git, qui te permet de versionner ton code, de faire des commits et de dire, ici, c'est une version stable et je continue, puis je commit cette nouvelle version. Et ça, tu peux le faire dans Bubble, et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, quoi.
Mais, ouais, exactement. Et comme tu dis, t'as cette gestionnaire de versions que tous les devs connaissent. Au-delà de ça, moi, je trouve même Bubble reprend le concept un petit peu de MVP, non, de MVC, de Model View Controller. Donc, le modèle, c'est la data store. La vue, ça va être la vue dans Bubble.
Le designer, ouais.
Le designer. Et les contrôleurs, ce sont en fait un petit peu une logique qui a lieu quand même du côté client. Et ce sont les
workflows.
Et en plus de ce modèle vue contrôleur, et ben t'as tout un aspect gestion de version. Et là, on est sur Git, et ça va encore plus loin parce qu'en réalité, t'as même un aspect, à mon avis, que les gens de la communauté no-code voient encore moins, mais toute la partie DevOps, c'est-à-dire la partie déploiement instantané. Et moi, pour avoir une application qui tourne sur Docker et sur nos propres serveurs, et on ose tout, je peux t'assurer que c'est une galère infinie. De s'occuper du
c'est un métier, hein. C'est un métier, c'est une expertise. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des experts vraiment sur ce domaine, et on peut faire des choses incroyables, mais c'est une expertise qui s'acquiert au fil du temps, qui vient de l'administration système, de l'administration réseau. Enfin voilà, je ne deviens pas DevOps du jour au lendemain, quoi.
C'est ça. Et là, tu cliques sur le bouton déployer. 10 secondes plus tard, c'est bon, mais c'est magique, quoi. Quand tu déploies une application pour de vrai, ça te prend 3 minutes.
Bubble, à ce niveau-là, c'est vrai. Enfin, c'est comme tu dis. Enfin, c'est vraiment ça. Pour moi, ça représente un petit peu tous les métiers de. Enfin, plus que du développeur, hein, parce que DevOps, c'est pas que le développement. C'est ce qu'on appelle les ops, c'est tout ce qui est opération, gestion des serveurs, gestion des déploiements, la sécurité, tout ce qui est les firewalls, on va dire, les backups aussi, c'est effectivement un point très important. C'est presque même un des points vitaux de la sécurité, je pense. Pour moi, enfin moi en tout cas, j'ai toujours été assez parano et donc j'ai toujours mis en place des politiques de backup très strictes parce que je pense que c'est le seul moyen de vraiment de se prémunir contre les dangers du web, on va dire. Mais ouais, non, sur le point de la sécurité, c'est vraiment intéressant ce que tu disais sur le côté aussi surface d'attaque. Ça, c'est vraiment le genre de termes qui sont employés vraiment dans le langage de la sécurité. Et c'est vrai que on l'a dit hier encore à un webinar, les gens nous posent toujours la question de la sécurité des données, par exemple sur Airtable ou sur Glide, etc. Quoi. Et les gens ne se rendent pas forcément compte de quelle est la question sous-jacente. Nous, ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est que Airtable, a priori, il y a quand même, là pour le coup, des équipes de DevOps et surtout des équipes de sécurité extrêmement qualifiées qui vont faire tout pour sécuriser leurs serveurs. Alors, du fait que ça soit centralisé, ça concentre aussi les attaques, évidemment, mais on peut estimer qu'il y a quand même des gens extrêmement experts qui travaillent dessus. Par contre, est-ce que les utilisateurs ont bien sécurisé les accès à leur base ? Est-ce que la synchronisation, par exemple, qu'ils ont mis en place entre Airtable et Google Sheets pour utiliser Glide est bien faite pour qu'il n'y ait pas de mot de passe qui se balade, qu'il n'y ait pas de choses qui soient accessibles en lecture seule, du URL qui...
Excusez-moi, ah, je n'ai pardon. Pas compris.
OK Google qui s'est mis en route. oui, voilà, ça c'est des choses.
Je n'ai pas compris.
Oui, forcément, en plus, comme j'ai répété après. Bon, bah, voilà, ça c'est les aléas du direct et d'avoir des enceintes connectées à côté de soi. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que souvent, la sécurité, c'est aussi l'utilisation des outils qu'on en fait. Et c'est vrai que les outils no-code peuvent aussi donner place, des fois, à un certain laxisme parce que les utilisateurs ne sont pas bien éduqués, quoi. À mon avis, les risques sont aussi beaucoup là.
Mais tu as dit oui que souvent les gens s'intéressent à la sécurité. Et ça, c'est marrant aussi parce que moi, je suis à Station F et je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui ne font pas de no-code ou qui même peut-être en font mais ne te parlent pas de no-code parce qu'ils ont l'impression que ça va leur faire perdre leur tech cred, si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et souvent, ils vont être là, ils vont dire oui, mais la sécurité de ton application, elle n'est pas chez toi. Ils ont des DevOps, ils ont levé plusieurs millions, ils ont plein de développeurs, des développeurs juniors tout seuls à Station F. Comment est-ce que tu penses que ton application elle va être plus sécurisée que celle d'Airtable?
Bah ouais, non, c'est clair. Donc,
il faut aussi être humble et se rendre compte de la réalité. Après, il y a un autre sujet par contre, et c'est vrai que si tu bosses dans le B2B, c'est pas possible. D'avoir, si tu bosses sur le B2B et sur des données sensibles, c'est pas possible d'avoir tes données qui sont hébergées aux États-Unis. Nous, on le voit par exemple, on pourrait pas du tout faire ce qu'on fait et horodater des preuves en no-code parce que tout simplement, il faut qu'on héberge les données, la data en France pour éviter de tomber sous le coup du Patriot Act qui laisserait le gouvernement américain regarder sur les serveurs, et je sais que nos clients, ils accepteraient jamais qu'on héberge aux États-Unis. Donc, tu peux avoir des contraintes, mais à mon avis, c'est pas des contraintes qui sont liées à la sécurité technique.
C'est plutôt législatif et juridique en réalité, quoi. Exactement. C'est pas réglementaire, voilà, c'est plutôt le mot que je voulais utiliser. Ça peut être le règlement, les règlements que tu évoquais, ou le règlement de la boîte en elle-même. Quand il y a des boîtes qui disent on veut que ça soit hébergé en France. Juste parce qu'elles l'ont décidé. Il n'y a pas forcément de raison fondamentale à ça, quoi. Il y a juste des boîtes qui ne veulent pas, par principe, et on peut le comprendre, comme tu dis, les États-Unis. Après, bon, il y a des trucs de Safe Harbor et compagnie, qui sont censés un peu limiter les choses, mais bon, c'est des choses extrêmement compliquées, quoi. Le RGPD aussi vient là-dedans, doit garantir quand même certaines choses aux citoyens européens, mais je pense que tu connais tous ces sujets-là beaucoup bien mieux que moi, donc pas forcément rentrer là-dedans, mais c'est un vrai sujet, quoi.
Ouais.
Et alors, pour revenir peut-être un petit peu justement sur ce que tu fais, ça m'intéressait d'avoir peut-être, pour finir un petit peu nos discussions, des exemples de ce que tu fais par rapport à votre activité, des exemples, tu parlais d'un petit peu de microservices, de micro-applications que tu fais en no-code qui reposent un peu sur ce que vous proposez. Ça m'intéresserait d'avoir un petit peu des exemples là-dessus.
Ouais, bah écoute, par exemple, j'ai fait un portail client avec Bubble une fois pour le brancher à notre API et pour permettre à des clients de clients en fait de venir déposer des documents. C'est-à-dire que j'ai une application principale qui est faite sur Angular, JS. Et le souci, tu sais, c'est que les applications one page, c'est sympa. Mais ça va aussi parler aux gens qui font du no-code. Mais plus tu rajoutes de fonctionnalités, et plus tu commences à avoir de couches et de surcouches et de surcouches de front, et tu as du mal à t'y retrouver entre tes différents calques et tes différents niveaux d'application. Et ben c'est pareil en vrai code, et ça devient rapidement un enfer quand tu dois gérer 15 cas de figure et types d'affichage différents pour 15 clients sur une application similaire. Et donc ben là, j'ai fait ce portail. Typiquement en utilisant Bubble en combinaison avec Integromat. C'est-à-dire qu'on a juste fait un petit portail qui servait à uploader des documents sur Bubble. Et ensuite, via un webhook, ces documents étaient envoyés à Integromat pour en calculer un hash et avec notre API l'envoyer sur nos serveurs. Et c'est là que je trouve vraiment que Integromat est magique parce qu'une fois que tu as compris le HTTP connector et que tu sais ce que c'est qu'une API globalement, enfin, surtout que tu sais l'utiliser, tu peux absolument tout faire. C'est une sorte de Zapier sous stéroïde sans aucune limite, quoi. Tu peux connecter à ton application, tu peux connecter à n'importe quoi. La seule chose qui peut éventuellement te limiter, c'est le pricing d'Integromat où à un moment, si tu veux récupérer trop de data, ça va te coûter cher, hein. Mais t'as de la marge.
Ouais, non, je trouve qu'Integromat, justement, un petit peu dans la lignée de ce qu'on disait sur la technique et comment Bubble offre vraiment une abstraction de des choses que font les développeurs, je trouve qu'Integromat est aussi un petit peu dans cette logique-là. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien, en fait, c'est je trouve qu'Integromat permet de faire des scripts, en fait. Alors, ça ne va pas forcément parler
Ouais,
aux gens, mais quand
exactement.
on est développeur back-end, quand on est administrateur système, on fait beaucoup de scripts qui permettent d'automatiser des tâches sur son serveur et qu'on peut lancer régulièrement, qu'on peut programmer, qu'on peut lancer des fois qu'une seule fois, hein, mais qui va faire beaucoup de tâches d'un coup. Ça, c'est quelque chose qu'à raison, par exemple, qu'on ne peut pas du tout faire avec Zapier. Avec Integromat, on peut faire une suite d'actions et la déclencher à la main quand on veut, juste pour, je ne sais pas, convertir, par exemple, à la volée plein de colonnes qu'on aurait dans un tableau. Et c'est pas obligé d'avoir un trigger, comme on dit dans Zapier. Les actions se déclenchent uniquement quand il y a un déclencheur. Dans Integromat, on peut les lancer quand on veut, on peut les lancer régulièrement, ou alors, évidemment, avec un déclencheur. Ça, je trouve
Ouais.
ça génial, quoi. Ça m'a servi déjà plusieurs fois. Et c'est un des usages que j'en ai, qui est peut-être un peu, qui échappe aussi peut-être un petit peu à certains no-codeurs, mais on a tout un épisode de podcast sur Integromat avec Louis, justement, qui parlait de ces choses-là et qui est assez chouette aussi.
C'est vrai que Zapier, enfin Bubble, je trouve, enfin c'est pas assez limité parce que c'est incroyable ce que les gars ont réussi à faire. Mais d'un point de vue logique, back, et si par exemple tu veux, je sais pas, croiser, si tu as envie de croiser deux listes de données pour les regrouper, il me semble pas que ce soit possible avec Bubble. Et ben Integromat arrive quand Bubble est plus suffisant. Et une fois que tu as Bubble et Integromat, à mon avis, ben là tu peux vraiment faire pas mal de choses. Tu feras pas de la deep tech, mais tu n'as plus vraiment de limites sur ce qui est possible. Donc, je pense que c'est un super outil à maîtriser et à avoir dans son stack en plus de Bubble pour les workflows back-end qui sont trop complexes pour être gérés par Bubble.
Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Et j'ajouterais qu'il y a aussi Parabola qui est assez chouette pour faire justement un petit peu ce que tu parlais, ce dont tu parlais pour traiter les données, fusionner des listes, des choses comme ça. Parabola, alors qui est beaucoup moins puissant en termes d'automatisation, d'intégration, mais par contre sur le traitement des données est très bien fait, en fait, c'est très visuel, c'est assez facile
J'ai
de
jamais essayé,
partir
moi,
d'un jeu de
Parabola.
données et le ressortir d'une autre manière. Mais bon,
C'est
effectivement,
mieux fait
Integromat.
le parsing sur Parabola. C'est plus intuitif, un peu comme à la Zapier.
C'est plus visuel et c'est vraiment, en fait, c'est vraiment dédié à ça. Donc, il y a beaucoup d'opérations que tu peux faire sur les colonnes, sur les lignes, tu peux faire de l'enrichissement, tu peux appeler des API, tu peux faire des boucles, enfin, faire pas beaucoup de choses ouais, par rapport à ça.
Il faut que je me penche sur...
Je pense que ça pourrait te plaire, vu un petit peu ce que tu viens de me dire. C'est vraiment sur une super abstraction visuelle du traitement de données. Quoi. Et ça se, d'ailleurs, il y a une intégration directe avec Bubble, avec l'API de Bubble. Ok, bah super. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon.
Pour te donner un autre exemple, en fait, j'ai réfléchi à quel exemple je peux te donner, mais il y a pas mal de trucs que je fais pour mon boulot qui ne sont pas encore sortis. Donc c'est un peu compliqué d'en parler, mais j'ai bossé avec un ami qui a une application mobile de e-commerce en fait pour les vêtements, tu vois. Et on se disait, télécharger une application mobile, il y a quand même un petit peu de friction, tu vois. Je sais que moi par exemple, j'aime pas télécharger une application mobile, et ça fait que le coût d'acquisition d'un utilisateur, il est extrêmement élevé. Enfin, il est pas extrêmement élevé, mais ça peut être 1 € par utilisateur. Sur une application mobile, c'est pas du tout déconnant comme coût d'acquisition d'un utilisateur. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait tenter pour avoir un meilleur ROI sur les utilisateurs qui téléchargent cette application, si tu veux, de e-commerce de vêtements. Et ce serait de réduire peut-être de réduire la friction. De réduire la friction à l'inscription. Et comment est-ce qu'on la réduit ? On s'est dit, on va essayer de faire un chatbot. Et de le brancher directement sur l'API du système pour permettre en fait aux gens d'acheter en e-commerce via le chatbot, enfin de cliquer sur des liens et ensuite de pouvoir acheter. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert, enfin je connaissais déjà Integromat, mais pour faire ça typiquement on a utilisé WeChat ou ManyChat et Integromat. Et c'est là que je me suis rendu compte de toutes les fonctionnalités webhook d'Integromat qui étaient extrêmement puissantes et qui te permettaient de trigger, quand tu voulais, un message pour utilisateur. Parce que typiquement, là, on récupérait, je crois, 100 000 données. Enfin, elles étaient parties ensuite, mais ça prenait un peu de temps de récupérer, par exemple, la paire de chaussures que tu voulais, parce que tu t'appelais « je veux une paire de chaussures, par exemple Stan Smith », et on te renvoyait une Stan Smith. Je n'ai pas été très clair. Mais donc, tu tapes « je veux une paire de chaussures Stan Smith ». Nous, il faut derrière qu'on examine les plusieurs millions de produits qu'il y a en catalogue, qui sont disponibles sur le web, et qu'on les renvoie via le chatbot, en fait, sous forme de card. Et donc, typiquement, Integromat peut te permettre de mener des opérations très complexes comme ça, de retrouver l'article que tu veux, sa fiche produit, et ensuite de l'envoyer via webhook directement sur Messenger à la personne visée.
Ok, ouais, non, ça c'est un bon cas d'usage. Ça montre aussi qu'il n'y a pas forcément besoin de Bubble ou de Webflow ou d'outils qui permettent de faire des interfaces web. On peut aussi faire des applications en passant par les chats, quoi. Enfin, par le chatbot, c'est aussi une autre interface qu'on pourrait faire aussi un peu, imaginer un peu la même chose que ce que tu dis avec une interface vocale comme mon enceinte connectée qui s'est mise à parler tout à l'heure, quoi.
Carrément. Et puis quand on voit les API en plus, tu as les API Google que tu peux utiliser de reconnaissance vocale. Alors, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé. Mais aujourd'hui, tu as des applications que tu peux acheter, des API que tu peux payer à la minute de reconnaissance de voix. Ce qui fait que n'importe qui, en fait, peut faire même des projets deep tech en se basant sur la techno de Google ou d'Amazon.
Ouais, non, carrément. Il y a un petit no-code qui s'appelle VoiceFlow, qui est un peu l'équivalent de ManyChat, mais pour faire des actions Google ou des skills Alexa.
VoiceFlow ?
Ouais, VoiceFlow, ouais. Si tu regardes, si tu veux faire un assistant vocal, c'est vraiment la même chose, c'est programmation visuelle. Faire des assistants vocaux sans coder.
Ok, c'est cool.
Voilà. Alors, écoute, moi j'ai deux dernières petites questions. Pour conclure, je voulais juste savoir un petit peu si vous aviez prévu des next steps sur Corona Party ou si c'est là, ça y est, pour l'instant, vous en profitez pour faire la fête et puis ça disparaîtra à la fin du confinement.
Moi, j'ai une autre entreprise à côté et on ne peut pas poursuivre plusieurs licornes à la fois, si tu veux. Je pense qu'il faut rester focus. Donc, c'était bien de faire une petite... aparté sur Corona Party le temps du confinement et un peu de la baisse d'activité, mais je vais retourner à ma première activité. Après, je sais que dans l'équipe il y a peut-être des personnes qui ont envie d'emmener le concept plus loin. Si c'est le cas, ce sera sur un autre domaine et en repartant de zéro que le Corona Party, parce que on a fait la promesse qu'il n'y a pas de data qui était utilisée, que c'était un projet éphémère, donc c'est pas pour tu vois, changer d'avis demain et reprendre l'app. Si ça se fait, ce sera ce concept, mais pour la vie réelle, et ça partira d'une autre app. C'est pas sûr, mais moi je pense que je continuerai pas Corona Party. Je suis super content de ce qu'on a fait. J'avais jamais vu des courbes analytics qui allaient aussi haut, et puis on s'est bien amusé, et puis je pense que c'était une super expérience, quoi. C'était une super expérience d'avoir la chance de pouvoir faire un truc qui marche un peu à grande échelle dans le B2C comme ça, tu vois.
Ok. Ouais, non, bah, j'imagine, ouais, non, c'est
mais sinon, les next steps pour l'instant, parce qu'on n'est pas encore arrivé au terme, si tu veux, de la vie de Corona Party, parce que ce sera quand il y aura le déconfinement. Les next steps, c'était la traduction en anglais, et ça, on l'a fait. On a remarqué qu'on avait pas mal d'utilisateurs à San Francisco, en fait, avec Google Analytics, de manière assez étrange, parce que c'est la tech San Francisco, mais on n'a pas particulièrement de potes qui habitent à San Francisco. Et puis on aimerait quand même vraiment faire une version mobile de l'application. Et là, je passe un appel. Si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute et qui code et qui fait du no-code en plus, on essaye désespérément d'intégrer Cordova pour avoir accès à la caméra de l'application dans le navigateur via une PWA pour permettre en fait à n'importe qui de pouvoir l'utiliser, même sur mobile, et sans avoir besoin de faire des paramétrages dans son navigateur. Et ça nous permettrait, je pense, de toucher deux fois plus de personnes, parce que c'est quand même une grosse partie de la population qui est sur mobile, et donc ce serait une bonne optimisation à mon avis. Voilà. Et puis si il y a une troisième piste qu'on est en train d'étudier, c'est qu'on fait quand même beaucoup de trafic avec Corona Party, et on ne veut pas faire de pub évidemment parce que c'est un projet gratuit, mais on se dit que c'est bête que tout ce trafic qui a quand même une valeur soit perdu, et du coup on voudrait peut-être l'offrir à des associations, tu vois, ou des je sais qu'il y a des hôpitaux qui essaient de lever des fonds pour acheter des masques. Enfin, je sais pas exactement, il faut qu'on arrive à trouver une bonne cause et puis un truc sérieux surtout. Mais s'il y a des gens qui ont ça, bah on aimerait proposer de la pub gratuite du coup pour voilà, quoi.
OK, bah l'appel est passé. Et alors, dernière question qu'on pose à tous les invités sur le podcast. Si tu avais un autre side project, si dans le futur, qu'est-ce que ça serait que tu construirais en no-code?
Franchement, si je faisais pas Blockchain UIP, je pense que je serais en train de faire une agence de no-code ou un truc comme ça. Parce que je pense vraiment, que le no-code, c'est quelque chose d'avenir. Je l'ai pensé à l'époque quand je suis parti sur Blockchain UIP, c'était il y a 4 ans. Je le pense aujourd'hui pour le no-code. Donc, je pense que je suis en train de faire une agence de no-code. Si je devais faire un autre side project maintenant en no-code et pas une agence, je sais pas comme ça. Ça me viendra.
Pas d'idée. Tu nous diras la prochaine fois, alors au prochain No Code Drinks.
Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir s'il y a déjà des gens qui ont réussi à faire des outils de no code. Bon, j'ai mis une limitée, mais en no code. Juste pour le challenge technique.
Ouais, pour faire une inception.
C'est ça. Et ça, je sais pas si ça a été fait ou non.
J'ai pas vraiment creusé la question, mais j'ai vu passer sur Twitter une espèce de légende urbaine que Builder, BILDR, aurait été fait en no-code. Enfin, et qui est un outil no-code, qui permet de faire des outils no-code, aurait été lui-même fait en no-code.
Ah oui.
Mais avec Builder. Mais ça m'a pas paru très clair, j'ai pas creusé la question, donc je sais pas si c'est juste le site de démonstration. Parce que le site de Bubble, par exemple, est fait avec Bubble. Mais le site de Bubble n'a rien d'extraordinaire, c'est juste un site vitrine. Enfin, bon, c'est pas l'outil en lui-même.
Ça, c'est presque normal, quoi. C'est-à-dire que sinon, on peut se poser des questions.
Oui. Le site de Webflow est fait avec Webflow aussi. Bon, donc, je sais pas. Je pense que c'est un challenge. Il faut que je creuse la question là, de Builder. Si c'est vraiment... Ça me paraît compliqué, en fait, juste sur la logique. J'ai du mal à voir comment on pourrait faire sans coder. Mais pourquoi pas, hein, tout est possible. À voir. Bon, bah écoute, super, merci, merci beaucoup pour tout ça, pour cet échange très intéressant. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux ou est-ce que les gens peuvent te suivre, toi ou Corona Party?
Vous pouvez m'acheter sur LinkedIn, William Fauchou. Et donc voilà, je serais super heureux de discuter avec vous de nos codes, de toutes ces choses passionnantes. Et sinon, bah, Corona Party, vous pouvez retrouver, il y a un groupe Facebook. N'hésitez pas à le rejoindre ou sur Instagram. On est aussi sur Twitter. Voilà.
Ok, super. Bon, je mettrai de toute façon tous les liens dans les notes de l'émission. Et bah, merci beaucoup et à très bientôt. Alors.
Merci à toi, Alex.
Salut. We'll be right back.